Chapitre 27. Je chemine avec De Glenn le long de la rue estivale. Il fait chaud, humide. Cela aurait été du temps à robe, bain de soleil et sandales, autrefois. Dans nos deux paniers, il y a des fraises. C'est maintenant la saison des fraises. Alors nous en mangerons et remangerons jusqu'à en être écœurés. Et du poisson préemballé. Nous avons acheté le poisson à la boulangerie-poissonnerie, avec son enseigne en bois. Un poisson souriant, et qui a des cils. Mais ils ne vendent pas de pain. La plupart des ménages font leur pain eux-mêmes. Mais on peut trouver des petits pains desséchés et des beignets ratatinés au pain quotidien, si l'on vient à en manquer. La boulangerie-poissonnerie n'est presque jamais ouverte. Pourquoi se donner la peine d'ouvrir alors qu'il n'y a rien à vendre ? La pêche en mer est défunte depuis plusieurs années. Les quelques poissons que l'on trouve maintenant viennent d'élevage et ont un goût de boue. D'après les informations, les régions côtières sont mises au repos. Les sols, je m'en souviens, et le haddock, les spadons, les coquilles Saint-Jacques, le thon, les homards, farcis et grillés, le saumon, rose et gras, en darnes grillées. Auraient-ils tous disparu, comme les baleines ? J'ai eu vent de cette rumeur, répercutée en mots silencieux, lèvres remuant à peine, tandis que nous faisions la queue, dehors, en attendant l'ouverture du magasin, alléchés par l'image en vitrine, de succulents filets blancs. Ils mettent la photo en vitrine quand ils ont quelque chose à vendre, la retirent quand ils n'ont rien. Langage des signes. De Glenn et moi marchons lentement aujourd'hui. Nous avons chaud dans nos longues robes. Nous sommes mouillés sous les bras, lasses. Au moins, par cette chaleur, nous ne portons pas de gants. Il y avait un marchand de glace quelque part dans ce pâté de maison, je ne me souviens pas de son nom. Les choses peuvent changer si vite. Des bâtiments peuvent être démolis ou transformés en autre chose. Il est difficile de les garder fidèlement en mémoire tels qu'ils étaient. On pouvait avoir deux boules de glace, et si on voulait, ils mettaient dessus des grains de chocolat. Ces grains avaient un prénom d'homme. Des Johnnies, des Jackies. Je ne m'en souviens plus. Nous allions là quand elle était petite. Et je la soulevais pour qu'elle puisse voir à travers la plaque de verre du comptoir les bacs de glace, aux couleurs si délicates. Orange pâle, vert pâle, rose pâle. Et je lui lisais les noms des parfums pour qu'elle fasse son choix. Elle ne choisissait pas en fonction du nom, mais de la couleur. Ses robes et ses salopettes avaient aussi les mêmes couleurs. Pastel de crème glacée. Des Jimmies. Voilà comment ça s'appelait. De Glenn et moi sommes plus à l'aise ensemble, maintenant. Nous sommes habitués l'une à l'autre. Des jumelles siamoises. Nous ne nous encombrons plus guère de formalités lorsque nous nous saluons. Nous sourions et nous nous mettons en route, en tandem. Parcourons doucement notre trajet quotidien. De temps en temps, nous changeons d'itinéraire. Rien ne l'interdit, pourvu que nous restions à l'intérieur des barrières. Un rat dans un labyrinthe est libre d'aller où il veut, à condition qu'il reste dans le labyrinthe. Nous sommes déjà allés dans les boutiques et à l'église. Maintenant, nous sommes au mur. Il n'y a rien dessus aujourd'hui. Il ne laisse pas les corps pendus aussi longtemps l'été que l'hiver, à cause des mouches et de l'odeur. Ce pays était jadis celui des atomiseurs d'atmosphère, pain et floréal. Et les gens en conservent le goût, surtout les commandants, qui prêchent la pureté en toute chose.
« Tu as tout ce qui était sur ta liste ?»
me demande De Glenn, alors qu'elle sait bien que j'ai tout. Nos listes ne sont jamais longues. Elle s'est un peu départie de sa passivité ces derniers temps, de sa mélancolie. Souvent, c'est elle qui m'adresse la parole la première. Je réponds « Oui ». « Faisons le tour » propose-t-elle. Elle veut dire par en bas, par la rivière. Cela fait un moment que nous ne sommes pas allés par là. D'accord. Je ne fais pas demi-tour tout de suite pourtant, mais reste planté là où je suis à regarder une dernière fois le mur. Il y a les briques rouges, il y a les projecteurs, il y a les barbelés, il y a les crochets. En un sens, le mur est encore plus sinistre quand il est vide, comme aujourd'hui. Quand quelqu'un y est pendu, au moins, on est informé du pire. Mais, désert, il est latent, comme un orage qui menace. Quand je vois les corps réels, quand je peux deviner d'après leur taille et leur forme qu'aucun d'eux n'est Luc, je peux aussi croire qu'il est toujours en vie. Je ne sais pas pourquoi je m'attends à le voir apparaître sur le mur. Il y a des centaines d'autres endroits où il pourrait l'avoir tué. Mais je ne peux pas me défaire de l'idée qu'il est là-dedans, maintenant, derrière les briques rouges sans expression. J'essaie d'imaginer dans quel bâtiment il se trouve. Je me rappelle comment les bâtiments sont disposés à l'intérieur du mur. Nous pouvions nous y promener librement, autrefois, quand c'était une université. Nous y allons encore, de temps à autre, pour les rédemptions de femmes. La plupart des bâtiments sont aussi en briques rouges. Certains ont des portes voûtées, influence romane, du XIXe siècle. Nous n'avons plus le droit de pénétrer dans les bâtiments, mais qui voudrait y entrer ? Ces bâtiments appartiennent aux yeux. Peut-être est-il dans la bibliothèque, quelque part dans les caves, les archives. La bibliothèque est comme un temple. Il y a une longue volée de marches blanches qui conduisent à une série de portes. Puis, à l'intérieur, un autre escalier qui monte encore. De part et d'autre, sur le mur, il y a des anges. Il y a aussi des hommes qui combattent ou qui se préparent à la bataille. Ils sont propres et nobles, et non pas sales, souillés de sang et malodorants comme ils l'étaient sûrement. La victoire est d'un côté de l'encadrement de la porte. Elle les entraîne, et la mort est de l'autre côté. C'est une fresque en l'honneur d'une guerre. Les hommes du côté de la mort sont encore vivants. Ils vont au paradis. La mort est une belle femme, avec des ailes et un sein presque nu. Où est-ce la victoire? Je ne m'en souviens plus. Ils n'ont sûrement pas détruit cela. Nous tournons le dos au mur, partons vers la gauche. Ici, il y a plusieurs devantures vides, les vitrines barbouillées de savon. J'essaie de me rappeler ce que l'on y vendait jadis. Des cosmétiques? Des bijoux? La plupart des boutiques qui proposent des articles pour hommes sont encore ouvertes. C'est seulement celles qui faisaient le commerce de ce que l'on appelait des frivolités qui ont été fermées. Au coin, il y a le magasin connu sous le nom de « Parchemin de l'âme ». C'est une succursale. Il y a des parchemins de l'âme au centre de chaque ville, dans chaque banlieue. Du moins, c'est ce que l'on dit. Cela doit être une affaire très rentable. La vitrine de « Parchemin de l'âme » est en verre incassable. Derrière la vitre, on voit des machines à imprimer, des rangées et des rangées de machines. Elles sont connues sous le nom de « Saint-Rouleau ». Mais seulement entre nous, car c'est un sobriquet irrévérencieux. Ces machines impriment des prières, rouleau après rouleau. Des prières en sortent à l'infini. On les commande par ordinaphone. J'ai entendu l'épouse du commandant le faire. Commander des prières au parchemin de l'âme est réputé être un signe de piété et de fidélité au régime. Alors bien sûr, les épouses des commandants en usent abondamment. C'est bon pour la carrière de leur mari. Il y a 5 prières différentes. Pour la santé, la richesse, un décès, une naissance, un péché. On choisit celle que l'on veut, on compose le numéro correspondant, puis son propre numéro, pour que son compte soit débité. Et enfin, on marque le nombre de fois que l'on veut faire répéter la prière. Les machines parlent tout en imprimant les prières. Si l'on veut, on peut entrer et les écouter. Voix atone et métallique, qui répètent la même chose interminablement. Une fois les prières imprimées et dites, le papier est réenroulé à travers une autre fente et recyclé en papier vierge. Il n'y a pas d'opérateur dans le bâtiment. Les machines fonctionnent toutes seules.
On ne peut pas entendre leur voix de l'extérieur, seulement un murmure, un bourdonnement, comme une foule dévote, agenouillée. Chaque machine porte un œil peint, en doré sur le côté, flanqué de deux petites ailes d'or. J'essaie de me souvenir de ce que l'on vendait ici, quand c'était un magasin, avant que cela ne devienne les parchemins de l'âme. Je crois que c'était de la lingerie. Carton rose et argent, collant de couleur, soutien-gorge orné de dentelle, foulard de soie, chose perdue. Deglen et moi sommes plantés devant les parchemins de l'âme, à regarder dans la vitrine en verre incassable, à observer les prières jaillir des machines, puis disparaître par la fente, retourner au royaume du non-dit. Maintenant je déplace mon regard. Ce que je vois n'est plus les machines, mais Deglen, reflété dans la vitre de la devanture. Ses yeux sont fixés droit sur moi. Nous pouvons nous regarder dans les yeux. C'est la première fois que je vois le regard de Deglen, direct, ferme, pas de biais. Elle a un visage ovale, rose, dodu, mais pas gras, des yeux plutôt ronds. Elle soutient mon regard dans la vitrine avec sang-froid, résolument. Maintenant, il est difficile de détourner les yeux. Cette vision est un choc. C'est comme voir quelqu'un nu, pour la première fois. Il y a du danger, brusquement, dans l'air qui nous sépare, là où il n'y en avait pas avant. Même cette rencontre de regard comporte un risque. Quoiqu'il n'y ait personne en vue. Enfin, Deglen parle. Crois-tu que Dieu écoute ces machines ? Elle chuchote, notre habitude au centre. Par le passé, cette remarque aurait été assez anodine, une espèce de spéculation érudite. Maintenant, c'est une trahison. Je me cuirasse, je réponds non. Elle laisse filer son souffle. Un long soupir de soulagement. Nous avons franchi la ligne invisible ensemble. Moi non plus, dit-elle. J'ajoute, mais je suppose que c'est une espèce de croyance, comme les moulins à prière tibétains. Qu'est-ce que c'est ? Demande-t-elle. Je n'en ai vu que dans des livres. C'est le vent qui les faisait tourner. Ils ont tous disparu maintenant. Comme tout le reste, dit-elle. C'est seulement maintenant que nous cessons de nous regarder. Je chuchote. On ne risque rien ici ? Je crois que c'est l'endroit le plus sûr. Nous avons l'air de prier, voilà tout. Et les tu sais quoi ? Les machins ? Dit-elle, toujours chuchotant. On est toujours plus en sécurité dehors, pas de micro. Et pourquoi en mettrait-il ici ? Il pense que personne n'oserait. Mais nous sommes restés assez longtemps. Il vaut mieux ne pas nous mettre en retard. Nous tournons les talons ensemble. Garde la tête baissée, dit-elle. Et penche-toi juste un petit peu vers moi. Comme ça, je peux mieux t'entendre. Ne parle pas si quelqu'un vient. Nous marchons, la tête baissée comme d'habitude. Je suis tellement excitée que je peux à peine respirer. Mais je conserve une allure égale. Maintenant, plus que jamais, je dois éviter d'attirer l'attention sur moi. Je pensais que tu étais une vraie croyante, dit Deglen. Je pensais la même chose de toi. Tu étais tellement puante de piété. Toi aussi. J'ai envie de rire, de crier, de l'embrasser. Tu peux te joindre à nous, dit-elle. Nous ? Donc il y a un nous. Il y a un pluriel. Je le savais. Tu ne pensais pas que j'étais la seule ? Dit-elle. Je ne pensais pas cela. Il me vient à l'esprit qu'elle est peut-être une espionne, une moucharde mise en place pour me piéger. Le terrain où nous poussons est ainsi. Mais je ne peux le croire. L'espoir monte en moi, comme la sève dans un arbre. Le sang a une blessure. Quelque chose a commencé entre nous. Je veux lui demander si elle a vu Moira, si quelqu'un peut découvrir ce qui est arrivé à Luc, à mon enfant, ma mère même. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Trop vite, nous approchons de l'angle de la rue principale, celle qui précède la première barrière. Il y aura trop de monde. De Glenn me met en garde, mais ce n'est pas nécessaire. Ne dis pas un mot, à personne. Bien sûr que non. À qui pourrais-je le dire? Nous parcourons la rue principale en silence. Dépassons le lys, tout viande. Il y a davantage de gens sur les trottoirs cet après-midi que d'habitude. C'est sûrement le beau temps qui les a fait sortir. Des femmes en vert, bleu, rouge, à rayures. Des hommes aussi. Certains en uniforme, certains juste en civil. Le soleil est gratuit, il est encore là pour qu'on en jouisse. Pourtant, personne ne prend plus de bain de soleil, pas en public. Il y a aussi davantage de voitures. Des tourbillons avec chauffeurs et passagers installés sur des coussins. Des voitures plus modestes, conduites par des hommes plus modestes. Il se passe quelque chose. Il y a une agitation, une panique parmi les bancs de voitures. Certaines se rangent au bord du trottoir, comme pour dégager la voie. Je lève les yeux rapidement. C'est un fourgon noir, avec l'œil à aile blanche sur le côté. La sirène n'est pas branchée, mais les autres voitures s'écartent quand même. Ils croisent lentement au long de la chaussée, comme à la recherche de quelque chose. Requin à l'affût. Je me glace. Le froid m'envahit jusqu'aux pieds. Il devait y avoir des microphones. Ils nous ont entendus après tout. De Glenn, par-dessous sa manche, me saisit le coude. « Continue à avancer, » souffle-t-elle. « Fais semblant de ne rien voir. » Mais je ne peux m'empêcher de voir. Juste devant nous, le fourgon s'arrête. Deux yeux en uniforme gris bondissent des doubles portes qui s'ouvrent à l'arrière. Ils empoignent un homme qui marchait tranquillement. Un homme qui porte une serviette. Un homme à l'air ordinaire. Lui flanque le dos contre la paroi noire du fourgon. Il reste là, un moment, écartelé contre le métal, comme s'il y était collé. Puis, l'un des yeux s'approche de lui, fait un geste rapide et brutal qui le plie en deux. En fait un paquet de chiffon flasque. Il le ramasse et le hisse à l'arrière du fourgon comme un sac postal. Puis, ils sont à l'intérieur, les portes se ferment et le fourgon démarre. Tout est terminé en quelques secondes, et la circulation reprend son cours, comme si rien ne s'était passé. Ce que j'éprouve, c'est du soulagement. Ce n'était pas moi.